Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. À l'heure des compagnies aériennes low cost, on les croyait définitivement enterrées dans un 20e siècle finissant. Les trains de nuit n'ont pourtant pas dit leur dernier mot. Le souci de l'écologie et les difficultés de l'aviation sont passés par là. Ils feront sans doute partie de nos voyages d'après Covid. Accent d'Europe vous emmène en wagon-lit aujourd'hui. Et direction, le pays roi, la Russie. Le train de nuit n'a jamais disparu du paysage. C'est presque même un art de vivre et du voyage. Reportage en train, signé Jean Casset.
Entrer dans une gare russe, c'est déjà un peu partir en voyage. Ce sont d'abord les tableaux d'affichage annonçant des destinations exotiques. Nijni Novgorod, Novosibirsk, Vladivostok, Ulan-Bator, Tashkent, Pékin. D'ailleurs, on ne dit pas en russe « train de nuit », mais « train de destination lointaine ». Et puis c'est aussi une odeur très particulière, faite de caoutchouc brûlé et de cambouis, qui frappe les narines dans l'air glacial et qui fait dire aux Russes « ça sent le train ». L'anecdote en dit long sur la relation qu'ont les Russes avec leur chemin de fer, à la fois une partie de leur culture et de leur vie quotidienne, mais aussi un réseau immense qui structure le pays et qui le fait vivre. Nous retrouvons sur un quai Yuri Egorov, historien des chemins de fer.
Pour nous, le train est un élément civilisateur. Au XIXe siècle, tout le pays s'est développé le long des voies ferrées. Ce sont à la fois des témoins de l'histoire de notre pays et ses vaisseaux sanguins. Là, nous sommes dans la gare de Koursk, à Moscou. Il y a 9 grandes gares dans la ville. Et depuis ici, on peut partir à Koursk, à Belgorod, en Ukraine, à Nijni Novgorod, vers l'est, vers l'ouest, au nord. Le réseau des chemins de fer russes est colossal. Pour ne donner qu'un seul chiffre, la ligne de chemin de fer qui relie Moscou à Vladivostok fait plus de 9000 km. C'est une semaine de train.
Nous sommes à bord du train Moscou-Petrozavodsk, à 700 km au nord de la capitale russe. Départ tous les jours, à 21h. À l'extérieur, il fait nuit noire. Les journées sont courtes pendant l'hiver russe, surtout dans le Grand Nord. Nous arriverons à destination le lendemain matin, frais et dispo, ou du moins relativement. Le convoi s'arrêtera quelques minutes dans la gare, en plein centre-ville. Il déposera son flot de voyageurs avant de repartir, encore plus au nord, vers la ville de Mourmansk et le cercle polaire. Des vacanciers, des travailleurs, des gens rendent visite à leur famille. Coronavirus oblige, pratiquement aucun étranger. Avec 86 000 km de ligne, plus d'un milliard de passagers par an, le réseau ferroviaire russe est une logistique impressionnante et complexe, un savoir-faire qui fait la fierté du pays. Nous sommes avec Philippe Pégorier, directeur général d'Alstom en Russie, qui produit dans le pays des locomotives pour les chemins de fer russes.
Il y a effectivement une traduction de voyage en train et en train de nuit en Russie, qu'il y a assez peu en France. C'est une grande compagnie, RGV, c'est pas loin d'un million de personnes, il y a du monde. Et été comme hiver, ça roule. Il y a des adaptations spécifiques pour l'hiver, hein. Il y a des procédés d'adaptation aux conditions hivernales. Il faut déneiger, déglacer, il y a des processus pour éviter que des blocs de glace ne se forment. Il y a aussi une tradition russe, une certaine âme russe qui se dégage de cela.
Âme russe, le mot est lâché. Quand on parle de train en Russie, il est incontournable. Mais le fait est qu'en Russie, prendre le train, c'est un peu plus qu'une simple façon de relier un point A à un point B. C'est un instant de vie, une capsule temporelle, en suspens au milieu de l'immensité des steppes et des forêts. Gilles Chenesseau est directeur commercial de l'agence Tsar Voyage. Il vit en Russie depuis la fin des années 1980. Et pour lui, le train, au-delà de son importance pratique, est aussi une expérience de vie, profondément russe, avec ses codes, ses coutumes et sa culture.
Un Russe qui monte dans le train, il sait que c'est pour un moment en général, donc il s'installe. Il s'installe dans la vie du train. Au bout de 5 minutes, on voit les gens qui sont en jogging avec des pantoufles. Ils sont installés, ils ont commencé à déballer leur pique-nique et des choses comme ça. Et la vie du train commence. C'est-à-dire qu'on va parler avec ses voisins, on va partager son saucisson. Voilà. Des conversations vont commencer, les langues qui vont se délier. On va parler de tas de choses à un inconnu. Alors qu'on n'aurait pas dit à quelqu'un de proche. Enfin, il y a toute cette histoire du train que les Russes partagent et qui est très profondément ancrée, qui est vraiment une expérience de la vie russe.
Cette expérience de la vie russe, chaque Français de Russie l'a faite au moins une fois, et tous en ont tiré une anecdote, un élément qui les a particulièrement marqués.
Moi, ce que je remets dans le train, c'est la façon dont on boit le thé. D'abord, il y a un pravadnik, donc il y a une personne qui s'occupe de votre wagon, et traditionnellement, elle vous sert le thé de ce qu'on appelle un podstakan. C'est une sorte de porte carte verte. Ils peuvent avoir des motifs dessus qui rappellent le train, qui peuvent être dans l'Union soviétique, des étapes politiques. Et ça, c'est vraiment le Potsdam est vraiment associé au voyage en train. Et ce qui est aussi, pour prendre le thé associé au voyage en train, c'est les morceaux de sucre qui ne fondent pas. On vous donnait toujours deux morceaux de sucre dans un petit paquet avec un train dessiné dessus. Et ces morceaux de sucre, nous, étrangers, on les met toujours dans le thé pour en remuer. Ça ne fond pas. En fin de compte, il faut le prendre dans la bouche et boire le thé par-dessus le morceau de sucre. C'est toute une tradition. Ça va bien au-delà du wagon, de l'écartement des voies, mais ça se fait. La tradition, c'est aussi dans la façon de prendre le thé.
Alors, c'est un souvenir un petit peu ancien que j'ai à l'époque de l'URSS. Et donc, j'avais pris un train donc entre Samarcande et Boukhara. C'était un wagon SV, donc un compartiment de deux personnes, plutôt luxueux. Mais, curieusement, il y avait une seule des deux toilettes qui était ouverte. Au bout d'un moment, je suis allé voir l'accompagnateur, donc je lui ai demandé, mais c'était un peu embêtant parce qu'il y avait un peu beaucoup de monde pour un seul toilette. Dis-moi, alors toi, je vais te laisser passer, donc j'ai pu entrer dans celui du bout, qui s'était réservé et privatisé, qui en fait transportait toutes les victuailles qu'il allait d'une ville à l'autre, et donc pendait au plafond des saucissons, des jambons, des choses comme ça. Et donc, aller faire ces petites affaires au milieu de tout ça, c'était assez folklorique, je dois dire.
On terminera cette série d'anecdotes par une dernière, peut-être plus personnelle. L'histoire d'un train allant de Moscou à Irkoutsk sur la ligne du Transsibérien, dont les passagers, apprenant auprès du provodnik qu'il se trouvait un Français dans leur wagon, demandèrent à ce dernier de leur chanter « Aux Champs-Élysées » de Joe Dassin, avec tant d'insistance qu'il fut bien obligé de s'exécuter devant tout le wagon réuni. Mais heureusement, de cet épisode, il n'existe pas d'enregistrement.
Prague, la capitale tchèque, une position géographique stratégique au cœur de l'Europe, redécouvre le train de nuit vers la mer pour les vacances, mais pourquoi pas aussi pour relier toutes les grandes capitales européennes à Prague, Alexis Rosenzweig.
Le succès des nouveaux trains de nuit reliant cet été Prague à la Croatie a fait prendre conscience du potentiel de ce moyen de transport à la mairie de Prague. Jusqu'ici, l'une des dernières lignes de trains de nuit les plus fréquentées restait toujours celle qui relie Prague à l'est de la Slovaquie, avec option de transport de sa voiture également. Tandis qu'en temps normal, la seule ligne en direction de l'ouest dessert Zurich en Suisse, en passant par l'Autriche. Toutes les autres, notamment vers l'Allemagne et la France, ayant été supprimées au cours des dernières décennies. La capitale tchèque entend contribuer à élargir à nouveau le réseau ferroviaire nocturne et le conseil municipal de Prague a validé mi-décembre le principe de négociation avec les compagnies de chemin de fer qui ont pour but de remettre en service des trains de nuit vers des villes comme Amsterdam, Paris, Milan, Rome, Francfort et même Copenhague. En direction de l'Est, une ligne entre Prague et Lviv en Ukraine est déjà prévue pour cette année dès le printemps. Jadis plutôt évitée en raison notamment de pickpocket, le train de nuit est aujourd'hui sans risque et à la mode et Prague entend bien profiter dans ce domaine de sa situation géographique centrale au cœur de l'Europe. Plusieurs autres lignes nocturnes international continue de traverser le territoire tchèque, en temps normal en tout cas, dont le Riviera Express qui relie la capitale russe Moscou à la ville de Nice en France pour un périple de plus d'une cinquantaine d'heures en tout.
Tube transport could be the future of global transportation. It is essentially like a tube system.
Le train de nuit, c'est aussi un sacré enjeu économique. Le mois dernier, les quatre compagnies nationales de chemin de fer allemandes, françaises, suisses et autrichiennes ont annoncé le lancement de plusieurs nouvelles lignes qui traverseront l'Europe de l'Ouest. Un schéma provisoire prévoit des Paris-Berlin, Amsterdam-Zurich, Zurich-Rome et même Zurich-Barcelone, si tout se passe bien. En 2024, le Paris-Vienne doit être lancé dès décembre prochain par la compagnie autrichienne. La viennoise ÖBB, c'est le fer de lance de la renaissance des trains de nuit qu'elle a baptisé Night Jet. Tout un programme à Vienne, Céline Béal.
Son nom fait rêver, le Night Jet, un jet de nuit. En réalité, le train de nuit autrichien n'a pas grand-chose d'un jet, en tout cas pas la vitesse. En revanche, il séduit par son accessibilité. Pour quelques dizaines d'euros, on réserve par exemple un siège pour rejoindre Innsbruck depuis Vienne, 500 km d'un bout à l'autre de l'Autriche. Les voyageurs qui ont davantage de moyens peuvent réserver une couchette, voire leur propre compartiment avec salle de bain. La compagnie de chemin de fer du pays, qui s'appelle ÖBB, a amorcé depuis quelques années un retour du train de nuit en le vendant comme une alternative écologique à l'avion. Fini les lignes qui disparaissent, comme ailleurs en Europe, au profit des vols à bas prix, l'ÖBB a même racheté en 2016 les lignes de la Deutsche Bahn allemande. Un beau succès, environ 1,5 million de voyageurs circulent maintenant en Nightjet chaque année. La compagnie prévoit désormais de passer de 19 lignes à 26. La réouverture d'un Vienne-Paris était prévue à long terme. Sous l'impulsion de la nouvelle ministre des Transports, Léonore Gewessler, du Parti Vert, et suite à un accord avec ses homologues français, suisses et allemands, il devrait entrer en gare bien plus tôt, dans tout pile un an. Et des Nightjet nouvelle génération sont déjà en construction. Le bébé promet qu'ils offriront une plus grande sensation d'espace privé aux voyageurs qui n'ont pas la chance de se réserver un compartiment pour eux tout seuls.
Et cet accord entre compagnies publiques ne fait pas que des heureux. Les compagnies privées se sentent mises à l'écart d'un marché très prometteur, d'autant qu'elles avaient pris le relais du public qui avait lâché les trains de nuit ces dernières années, Franceline Beretti.
Oui, c'est le cas de Tello, compagnie italienne, d'abord privée, créée en 2011 pour relier l'Italie à la France. Cette entreprise spécialisée dans les liaisons internationales a été rachetée ensuite par Trenitalia, l'équivalent italien de la SNCF. C'est donc maintenant un opérateur public. Tello annonce transporter plus d'un million de voyageurs par an. Elle fait rouler des trains entre le nord de l'Italie et la Côte d'Azur en journée ou entre Paris et Venise la nuit avec une halte à Milan. Sauf que depuis mars dernier, coronavirus oblige, les liaisons de nuit sont suspendues. Les trains de jour, eux, ont été réduits de moitié après leur interruption forcée. Et d'après la presse économique, la ligne Milan-Nice-Marseille va être définitivement supprimée dans les prochains mois.
Et la compagnie Franceline peut malgré tout survivre.
C'est sûr que Tello paraît menacée. Elle n'a d'ailleurs pas voulu s'exprimer à cause, je cite, « d'importantes décisions en cours sur sa stratégie d'évolution ». Trenitalia, son actionnaire, dit préférer se recentrer sur d'autres projets, comme les lignes à grande vitesse en France. Il prévoit le lancement d'un Frecciarossa, l'équivalent italien du TGV, entre Paris et Milan, d'ici la fin de l'année 2021, avec une halte à Lyon. Paris-Milan, c'est 7 heures de train, et cette fois on ne parle pas de train de nuit. Ça n'est donc pas très attractif pour un voyageur. Et donc, ça n'est pas un secret que ce qui intéresse Trenitalia, c'est surtout le tronçon entre Lyon et Paris. La naissance du projet était déjà prévue pour l'année dernière, elle a dû être reportée. Et vu le contexte économique et sanitaire, la promesse de Trenitalia va être difficile à tenir.
Et la liaison nocturne Paris-Venise est-elle enterrée alors ?
Pas officiellement, mais c'est peu probable qu'elle soit réexploitée à moyen terme. D'après un expert du secteur, elle était de toute façon une perte financière. C'est souvent le cas avec les trains de nuit. Les couchettes prennent plus de place qu'un siège, donc les wagons transportent moins de passagers qu'en journée. Et puis ce sont des parcours longs, il faut donc payer cher l'utilisation des rails, elle n'est pas gratuite. Et la nuit, les travaux de maintenance des infrastructures créent régulièrement des complications et des retards. En fait, à l'exception de la compagnie autrichienne ÖBB, Österreichische Bundesbahnen, ces dernières années, les opérateurs européens ont abandonné la quasi-totalité des liaisons de nuit.
Et pourquoi avoir maintenu le train Paris-Venise de nuit alors si la liaison n'est pas rentable ?
D'après un connaisseur du secteur, Tello a voulu se préparer à l'ouverture du marché ferroviaire à l'échelle européenne. Car à partir de l'année prochaine, ce sont les règles de Bruxelles, chaque État membre devra ouvrir ses rails à la concurrence. Mais jusqu'en 2022, un opérateur ne peut pas aller dans un autre pays que le sien. Trenitalia n'a pas encore le droit de proposer des Paris-Lyon, sauf, bien sûr, pour une liaison transnationale. C'est ce qu'il veut faire à travers Tello. Avec la liaison Paris-Venise, les Italiens auraient donc anticipé 2022 et mis déjà un pied en France avec ce train de nuit pour espérer gagner ensuite plus facilement des marchés. Supposons que la région PACA fasse l'année prochaine un appel d'offres pour faire fonctionner ses trains régionaux. Tello aura un avantage sur ses concurrents avec déjà la connaissance du terrain.
Merci Franceline Beretti à Milan, à très bientôt.
S'agapoye si me celis, ela na ti ganume, την αγάπη να χαρούμε πριν να μας τρελάνουν.
Et pour notre chronique en un mot, nous partons en Grèce face aux aléas de la vie. Les Grecs ont une expression qu'ils utilisent souvent en fin de conversation, c'est « tina kanoumé », littéralement. Que pouvons-nous y faire ? Autant dire qu'en temps de pandémie et après une décennie de crise économique, on l'utilise souvent. Il y a un peu de fatalisme et quelques accents de tragédie dans cette locution. Mais paradoxalement, il s'en dégage aussi un certain optimisme face aux difficultés de tous les jours. C'est la chronique de Joël Bronner à Athènes.
Tina kanoumé. Traduction « Que faire ?» ou « Que pouvons-nous faire ?» Cette expression grecque est généralement employée en synthèse face à une situation qui n'offre pas de solution. Olga Bellou est professeure de mathématiques à Athènes. Comme les années précédentes, elle a passé le nouvel an à Londres, où vit et travaille sa sœur. En raison du contexte pandémique international, la jeune femme se retrouve ces jours-ci face à l'une de ces équations insolubles à laquelle la langue grecque répond souvent en un soupir par un tina kanoumé, un brin fataliste.
I'm stuck in the UK.
Je suis coincée au Royaume-Uni sans avion pour rentrer en Grèce. Et avec le Covid que j'ai attrapé, je suis obligée de rester en quarantaine encore au moins une semaine. Et sans doute encore plus longtemps ici parce qu'il y a peu d'avions en ce moment et que les prix ont augmenté. Donc je ne sais pas quand je vais pouvoir retourner à Athènes. Au vu de la situation, voilà, j'ai conclu tina kanoumé, puisque je ne peux rien faire d'autre que de rester ici et d'attendre que la situation s'améliore.
Qui puis-je ? Qui pouvons-nous ? Une pandémie mondiale, une crise économique profonde, quand la situation nous dépasse et ne dépend pas de nous, quand les éléments eux-mêmes sont contre nous, la sentence est souvent « tina kanoumé », que pouvons-nous y faire ? Eleni Galanopoulou enseigne la langue grecque à Athènes et illustre à quel point l'expression est courante et fait écho à l'actualité.
Tina kanoumé est une expression que j'entends prononcer au quotidien, par exemple en écoutant la radio ou en regardant les informations à la télévision. Je l'entends aussi dans mon entourage où j'ai un certain nombre d'amis ou de connaissances qui sont entrepreneurs ou qui ont un commerce et qui disent « Oh mon Dieu, la situation est affreuse, on ne va pas s'en sortir. Nous avons déjà eu plus de 10 ans de crise économique et maintenant les choses empirent encore avec le Covid. » Et ils terminent systématiquement leur monologue par cette phrase « Tina kanoumé, que pouvons-nous y faire ?» parce qu'effectivement, la situation les dépasse.
Cette expression grecque peut sembler de prime abord uniquement pessimiste aux oreilles d'un étranger. La phrase peut ainsi faire penser à certaines tragédies grecques où les héros ne sont pas totalement maîtres de leur destin, eux qui dépendent, entre autres, des dieux et de leurs caprices. Mais Eleni Galanopoulou souligne que le sens de l'expression a évolué et qu'aujourd'hui, elle implique souvent une perspective en réalité positive.
Avant la crise économique et la pandémie de Covid-19, de nombreuses personnes en Grèce utilisaient cette expression pour signifier qu'un problème n'était pas soluble, que ce n'était donc pas leur problème et que dans le fond, c'était à quelqu'un d'autre de le régler. Mais de mon point de vue, avec les années et les épreuves, cette conception a changé. L'expression signifie davantage aujourd'hui que nous ne sommes pas des dieux, que nous sommes de simples mortels et que malgré les difficultés, nous allons faire de notre mieux à notre niveau, siga siga, c'est-à-dire pas à pas en grec.
Avocate, Stéphania Prunzou analyse également l'expression tina kanoumé davantage comme une incitation à l'action, au niveau où cela est possible, plutôt qu'à un sombre fatalisme privé d'espoir, où il n'y aurait rien d'autre à faire qu'à baisser les bras devant des obstacles jugés insurmontables.
Tina kanoumé traduit notre côté optimiste lorsque les choses vont mal. Quand nous voulons surmonter un problème particulier, nous utilisons ces mots pour résumer la difficulté des choses et aller de l'avant.
Cette philosophie grecque se calque en cela sur l'expression française « c'est la vie », qui dresse elle aussi un constat teinté à la fois de résignation et de volonté de persévérance.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.